Bonjour pour cet historama spécial consacré au livre que Éric Nolot vient de publier aux éditions Léo Cher à propos de Jean-Luc Mélenchon, La République. C'était lui, grandeur et décadence du camarade Mélenchon. Éric Nolot, ce pamphlet, parce que je crois que le terme est juste, débute sur un événement qui a eu lieu le 12 février 2021, lors de l'émission « Balance ton poste » de Cédric Hanouna. Jean-Luc Mélenchon est l'invité et il vous écarte du plateau.
Oui, d'abord, je reviens sur votre mot de pamphlet. Moi, je me réclame de cette école littéraire. Ce que je dois dire, c'est qu'il y a un peu une contradiction dans les termes, parce que c'est un pamphlet objectif. Hein. Tout ce que je dis peut être aisément vérifié.
Je confirme.
Sur des effets de manche, mais en fait, c'est sur des faits. D'ailleurs, c'est assez effrayant que des faits aussi bien établis n'aient aucune conséquence dans le débat public et que M. Mélenchon continue de pérorer ainsi. Mais je ferme la parenthèse. Oui, Monsieur Mélenchon a une conception très particulière de la démocratie, puisque avant de participer à une émission, il pose une seule condition, c'est que je sois écarté du plateau. Donc il refuse de débattre avec moi, et cette peur s'explique peut-être par mon livre. Je pense que ceux qui me feront le plaisir et l'honneur de me lire verront pourquoi M. Mélenchon refuse de débattre avec moi. Ce serait en effet très dangereux pour lui.
Une question se pose, et Cyril Hanouna l'a évoqué dans son émission sur Europe 1 la semaine dernière. Pourquoi a-t-il eu la faiblesse d'accepter cette condition inacceptable ?
Écoutez, Cyril Hanouna a lui-même déclaré qu'il le regrettait. Après, vous savez, je suis un homme de télévision aussi. On dit médiatique de faire venir Jean-Luc Mélenchon, et que dans ces cas-là, on a tendance à accepter des conditions qu'on n'aurait peut-être pas acceptées dans d'autres circonstances. Donc moi, je ne lui en veux pas, d'autant que c'est du passé, je fais la part des choses. Mais j'étais, je ne vous le cache pas non plus, très heureux que Cyril dise qu'il regrettait d'avoir accepté cette condition et que certainement il ne céderait plus à ce genre de chantage à l'avenir. Voilà ce dont je me réjouis.
Il faut revenir sur le parcours politique de Jean-Luc Mélenchon. Il vient de l'extrême-gauche, du trotskisme, et singulièrement d'une des branches de cet univers assez composite qu'est le trotskisme, le lambertisme fondé par Pierre Boussel-Lambert.
Oui, il vient du trotskisme. Alors ça, c'est pas très très original, puisque la gauche est extrêmement infiltrée par cette mouvance. Mais en effet, il vient de la branche la plus dure du trotskisme, qui est le lambertisme. Alors, vous avez dit qu'il venait de l'extrême gauche. Je compléterai votre phrase en disant que il est venu de l'extrême gauche, il y est retourné. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui est passé entre les deux, parce qu'entre les deux, M. Mélenchon, je suis pas là pour sonder son cœur et ses reins, mais enfin, donner tous les signes extérieurs d'avoir plutôt rallié la social-démocratie. Rappelez-vous de son soutien à Maastricht, où non seulement c'était un soutien de Maastricht, mais il disait « voterait pas en faveur de Maastricht, n'avait rien compris à l'histoire, n'était pas dans le sens de l'histoire, etc. » C'était assez virulent. Il tenait également un discours qu'on qualifiait volontiers à l'époque de laïcard. Là aussi, j'étais très bien placé pour en juger, puisque c'était sur le plateau d'On n'est pas couché, où il vituperait le voile islamiste, c'est scandaleux, c'est un vêtement obscène, n'y aurait-il qu'une femme voilée en France, ce serait encore trop. Et il a refermé cette parenthèse, il est retourné à l'extrême gauche pour des raisons tactiques, pour des raisons électorales, pour draguer un nouvel électorat. L'ancien électorat ne vote pas bien, il vote mal, il vote à l'extrême droite, les classes populaires maintenant votent à l'extrême droite, donc il a suivi les recommandations du CNI électoral, donc maintenant il faut draguer uniquement les populations issues de l'immigration, les minorités sexuelles, les tendances progressistes, etc. Donc, pour les draguer, il suffit pas des bonnes intentions, il faut tenir un discours qui leur plaît, et Monsieur Mélenchon tient un discours extrême gauchiste très radical, et ce qui rend la chose encore plus problématique, c'est qu'il a fait de l'antisémitisme l'outil principal de conquête du pouvoir. Donc vous voyez, toutes ces raisons que je balaye très rapidement pour tenir compte du temps qui nous est imparti, toutes ces raisons font qu'il était urgent de consacrer un livre à M. Mélenchon et de montrer la vérité de ce personnage qui est en effet engagé, mais nous n'avons pas encore vu le terme, dans un processus de déchéance totale. Il est sorti pour moi non seulement de la République, mais même du champ démocratique.
Et il fait allégeance à un courant de pensée qui pollue la gauche depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, l'islamo-gauchisme.
Mais oui, l'islamo-gauchisme, c'est la synthèse de la recommandation de Terra Nova dont je vous parlais tout à l'heure. Aller chercher les populations, électoralement, on s'entend, aller chercher les populations issues de l'immigration et la mouvance progressiste. Tout ça fait l'islamo-gauchisme. Bon, ben, l'islamo-gauchisme, alors ce qui est assez amusant, enfin, vous mettrez tous les guillemets les autres ne sont pas faits pour s'entendre, hein, puisque en fait, les islamistes, eux, ne rêvent que d'égorger les gauchistes qui représentent tout ce qu'ils détestent, la licence sexuelle, ce qu'ils jugent comme des déviances, comme l'homosexualité. Alors, toutes les questions qui touchent au genre, inutile de vous dire, c'est pas non plus leur genre de beauté, mais peu importe, pour l'instant, ce sont des alliés objectifs. Et Monsieur Mélenchon, donc, fait feu de tout bois pour séduire cet électorat. Le problème, c'est que tout cela est manipulé en sous-main par les frères musulmans et que ça n'engage que moi. Je ne veux pas que votre station ait des ennuis, mais pour moi, la France Insoumise et M. Mélenchon sont devenus un parti de l'étranger, c'est-à-dire un parti qui est au service d'une idéologie étrangère, qui est l'islamisme, qui est totalement, que je ne confonds pas avec l'islam, qui est totalement étrangère à la tradition française et à notre civilisation.
La France Insoumise est créée en 2016 et Jean-Luc Mélenchon prend comme référence le Venezuela qui a sombré malgré ses richesses pétrolières dans un marasme économique et dans une dictature particulièrement rétrograde.
C'est-à-dire que plus généralement, là, on aborde un autre aspect de la pensée de M. Mélenchon et de ses amis. Ce sont des gens qui vivent sur le grand fantasme révolutionnaire, à commencer par la Révolution française, mais plutôt 1793, la terreur, que 1789. La Révolution russe, évidemment, et puis toutes les révolutions sud-américaines. Donc ce sont des gens fascinés par la révolution, dans ce qu'elle a de plus négatif, dans l'insurrection, dans la violence politique, et je pense que j'en suis même certain, hein. Je pense que le véritable but de M. Mélenchon n'est pas d'arriver au pouvoir par les urnes, mais en espérant que par un crochet du Rassemblement national au pouvoir, il pourra instituer une situation insurrectionnelle et parvenir au pouvoir par la seule manière qui l'intéresse, au fond, c'est la rue. On en a eu quelques exemples, quelques répétitions générales, si j'ose dire, quand on n'obtient pas par exemple, une décision favorable à l'Assemblée nationale, eh bien, on conteste dans la rue, en s'alliant.
Et de manière violente.
Évidemment, de manière violente, puis en s'alliant avec des factieux, des nervis, les Black Blocs et autres professionnels du saccage urbain. On l'a vu également soutenir les dernières émeutes en banlieue, ne pas appeler au calme et juste à un moment dire que si on pouvait éviter de brûler les bibliothèques et les librairies, ce serait aussi bien. Mais en revanche, si on avait bien compris, en tout cas, on pouvait continuer à brûler les commissariats ou d'autres lieux républicains. Non, mais c'est un personnage extrêmement inquiétant. Ce qu'il met en œuvre est en fait une destruction de la République, de notre République, de notre pays, de notre civilisation. Et il faut bien que vos auditeurs se mettent quelque chose en tête, c'est qu'il n'y aura aucune limite dans cette conquête du pouvoir par des voies répréhensibles et non plus aucune limite dans l'antisémitisme déployé, comme je le disais précédemment, comme outil de conquête du pouvoir.
Dans les dernières pages de votre pamphlet, Éric Nolot, vous dites « L'un des ressorts les mieux bandés du mélenchonisme est un anti-américanisme primaire ».
Ah oui, ça c'est une grande tradition, d'extrême gauche. Le problème c'est que c'est tellement pavlovien que si vous voulez, par anti-américanisme, vous êtes obligé, du moins si vous êtes dans ce camp-là, le camp extrême gauchiste, de soutenir les ennemis. Hein. Les ennemis de mon ami sont mes amis. Donc vous soutenez Cuba, vous soutenez le Venezuela, et même M. Mélenchon a même eu des paroles extrêmement aimables envers Bachar el-Assad, le boucher syrien, envers Poutine, c'est extrêmement complaisant. Il a pris des positions que j'ai trouvées totalement scandaleuses sur l'agression russe contre l'Ukraine. Donc en fait, tout ça est assez cohérent, mais cohérent et navrant, voilà, parce que ça donne quelque chose qui n'est pas basé sur la réflexion politique, mais sur quelque chose de très pavlovien.
Nous en avons eu un exemple il y a quelques jours seulement. Mélenchon pratique allègrement les purges politiques.
Oui, bah, de toute façon, écoutez, ce qui est assez drôle, c'est que, je le rappelle aussi dans le livre, vous savez que la France insoumise n'a pas d'adhérents. Hein, il a des militants, mais il n'y a pas d'adhérents. Ça signifie qu'il n'y a pas de vote interne. C'est-à-dire que tout se passe dans la cuisine de M. Mélenchon, entre lui, sa compagne, Sophia Chikirou, M. Bompard et Mme Panot, et encore, peut-être que ça ne se décide qu'entre lui et Mme Chikirou. Donc en fait, c'est une pratique très autocrate, très peu démocrate du pouvoir. Mais ce qui est drôle, c'est que dans la purge qui a été faite à l'encontre de Mme Garrido et de M. Corbière, ce sont les mêmes qui m'ont expliqué des mois et des années durant que le fonctionnement de la France insoumise n'était pas du tout celui que je disais, que c'était un exemple de démocratie interne, que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de problème. Donc en fait, il y a une ironie de l'histoire qui est très douloureuse, mais vous me permettrez de l'apprécier tout de même.
Revenons un instant sur Mme Chikirou, députée de Paris, réélue au premier tour dimanche dernier, qui joue un rôle, effectivement, vous le soulignez, tout à fait essentiel dans le dispositif que mélenchoniste, au-delà de sa vie privée.
Mme Chikirou a été élue au premier tour dans ma circonscription, figurez-vous. Sa permanence se trouve à l'angle de ma rue. Vous voyez que c'est une double...
Ironie de l'histoire.
Oui, double camouflet pour moi. Un double camouflet, mais je respecte le verdict des urnes, ça va de soi. Oui, il y a une... D'abord, c'est quelqu'un au passé politique extrêmement zigzagant, qui a été du côté... qui a été à droite, qui a été ensuite au centre-gauche, qui maintenant est à l'extrême-gauche. Enfin, elle va où le vent la porte. Mais vous voyez que le vent l'a portée jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc c'est une assez bonne manœuvrière, elle devrait se mettre à la voile, elle a l'air de prendre le vent. Mais surtout, il y a un mélange des genres assez préoccupant entre la politique et les affaires. Madame Chikirou était à la fois la maîtresse d'œuvre de la campagne mélenchonienne et la prestataire de service. C'est-à-dire que Sophia passait des commandes à Chikirou et Chikirou acceptait les commandes de Sophia. Alors, la justice a mis son nez dedans, on attend, d'ailleurs c'est très discret, alors qu'on suit des tas d'autres procédures au jour le jour, si ce n'est à la minute, là c'est très discret. Mais enfin, on verra bien à la fin ce qu'il en est. Moi je trouve, vu de l'extérieur, qu'il y a un mélange des genres extrêmement problématique. Et puis politiquement, oui, elle encourage ce phénomène de secte où maintenant M. Mélenchon et ses amis ne parlent pas à la France, ne parle pas aux électeurs, mais parle uniquement à leur soutien. Donc là, maintenant, tout est dirigé, toute la stratégie est dirigée vers les populations issues de l'immigration. On les drague, on essaie d'obtenir leur suffrage. Et comme c'est par tradition une population qui ne vote pas énormément, il faut absolument augmenter la dose, y aller toujours plus fort, pousser le curseur de plus en plus loin. Et vous voyez que, par exemple, sur le pogrom du 7 octobre, la France insoumise n'a pas hésité à parler du Hamas comme un mouvement de résistance.
Et oui.
Donc, il n'y aura vraiment aucune limite dans ce cas-là pour essayer de draguer un certain électorat. Non, là, vraiment, je trouve que la gauche raisonnable, la gauche digne, la gauche républicaine fait preuve envers M. Mélenchon et ses amis d'une complaisance tout à fait coupable.
Alors, fidèle à sa théorie du chaos, Jean-Luc Mélenchon a objectivement aucun intérêt à la victoire du nouveau Front populaire.
Ah ben non. Non, on n'est pas dans une logique électorale, on est dans une logique révolutionnaire. Le mieux qui pourrait lui arriver, c'est que le Rassemblement national obtienne la majorité absolue et que Jordan Bardella se retrouve à Matignon. Parce que là, vous pourriez rejouer le petit théâtre antifasciste, mais en passant de la théorie à la pratique. Le fascisme ne passera pas, no passera, enfin vous connaissez ce folklore aussi bien que moi, et alors là, ce que nous avons vu dans les rues, le recours à la violence n'aura été qu'une aimable répétition par rapport à ce qui nous attend.
Vous rappelez également dans votre livre l'aveuglement des intellectuels français face au totalitarisme chinois en particulier, très à la mode au début des années 1970, que ce soit Roland Barthes, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Louis Althusser, ils ont tous soutenu la révolution culturelle portée par Mao Tse-tung.
Ils se sont fourvoyés dans tous les ismes du XXe siècle. Le stalinisme, le maoïsme, le polpotisme, tout ce que vous voulez. Après, moi, c'est la seule lueur d'espoir que je vois, parce que je ne vous cache pas que je suis extrêmement pessimiste. Le mot est même faible. Par moments, je suis pas loin du désespoir, mais j'ai un tempérament combatif. Donc, je peux être à la fois désespéré et combatif, ça, c'est pas mal. Mais la seule lueur d'espoir, c'est que je vois que les gens de gauche raisonnables, ceux qui ont combattu le maoïsme, le stalinisme, etc., et qui ont été traités de fascistes à l'époque par l'équivalent de M. Mélenchon et de ses amis. Je pense évidemment à Camus, je pense à Orwell, je pense à Kravchenko, je pense à Simon Less. Eh bien, c'est à eux que l'histoire a rendu justice.
Bien tardivement.
Évidemment, tardivement, mais vous voyez, le présent est très sombre. J'ose espérer que l'avenir sera un petit peu moins. Mais j'observe que maintenant la vérité est faite sur le stalinisme, que Orwell est entré dans la Pléiade et que Simon Less a eu raison contre tous les idolâtres de Mao. Donc j'espère que le temps nous rendra justice à nous autres hommes de gauche républicains, d'une gauche laïque, sociale, antitotalitaire. Voilà. Pour le moment, eh bien, nous sommes écrasés par cette extrême gauche. Pourquoi ? Parce que le vent de l'histoire est plutôt pour eux en ce moment, et puis parce qu'il faut le dire, ils bénéficient d'une complaisance incroyable des médias et de beaucoup de milieux tels que le milieu universitaire, par exemple, ou culturel.
Et de la bassesse d'une large part du personnel politique.
Ah ben là, c'est extraordinaire. Enfin,
la complaisance est quand même effroyable.
On a même passé la complaisance, si vous voulez, parce que quand maintenant des gens qui n'ont cessé d'être traînés dans la boue par LFI et qui eux-mêmes ont dit de LFI tout le mal qu'ils en pensaient, appellent à voter pour eux au second tour sous prétexte d'un barrage au Rassemblement national. Écoutez, on est plus que dans la complaisance, on est dans la complicité. Cette complicité, elle était déjà très repérable dans les milieux que j'ai cités, universitaires, culturels, etc. Mais là, elle s'étend au domaine politique. Cela dit, je pense qu'ils se font beaucoup d'illusions sur le fait qu'ils vont être suivis par leurs électeurs ou par les gens auxquels ils s'adressent. Je pense que les gens vont voter autrement et que le parfum de petite tambouille, là, est en train de monter aux narines de beaucoup de gens qui vont bien voter comme ils veulent.
Vous qui avez une très grande culture littéraire, Éric Nau, je vous rappellerai la phrase de François Mauriac à propos de Jean-Paul Sartre durant la Seconde Guerre mondiale, grand résistant français à la terrasse du Café de Flore.
Oui.
Il était déjà très lucide.
Oui, le cas de Sartre est très intéressant, quelqu'un qui s'est planté sur tout. En effet, pendant la guerre, pas dire que sa contribution à la résistance était flamboyante, mais regardez, je reviens, je souffle sur ces braises d'espoir, vous l'aurez remarqué. Mais regardez comme la postérité est en train de tourner très très favorablement pour Camus et beaucoup moins pour Sartre. Sartre est en train de disparaître doucement et Camus de monter au firmament alors que Sartre et ses amis n'avaient pas de mots assez durs pour vilipender Camus en le traitant de philosophe pour secondaire ou même primaire. Voilà. Donc je pense que la vérité finit toujours par se frayer un chemin.
Alors sans vous affubler de dons divinatoires, Éric Nolo, comment voyez-vous la suite de l'histoire ?
Ben, la suite de l'histoire, si vous me parlez de la suite électorale, moi j'ai l'impression au doigt mouillé qu'on va entrer dans une période extrêmement incertaine parce que il me semble que la majorité absolue est hors de portée pour le Front National. Il s'en faudra pas de 100 sièges, mais enfin, au doigt mouillé, on a l'impression qu'ils sont plus vers 250-260 sièges. Donc il va falloir, et dans ce cas-là, ils ne veulent pas aller au gouvernement. Donc là, il va falloir inventer quelque chose qu'on n'a jamais vu en France. Alors soit une grande coalition qui me paraît totalement illusoire, quand je vois qu'il y a certains qui voudraient la faire depuis les LR jusqu'aux communistes, je trouve ça un peu baroque, pour utiliser un adjectif à la mode, ou alors un gouvernement technique qui tient bon an mal an jusqu'à la prochaine dissolution, ou alors M. Macron prend enfin ses responsabilités après avoir fait preuve de tant d'irresponsabilité, c'est-à-dire qu'il démissionne et au moins on va clarifier la situation avec un président nouvellement élu et une majorité que les Français lui donneront probablement.
Ça, oui, c'est mais un président nouvellement élu qui ne pourra pas dissoudre.
Non, mais écoutez, il s'en faudra de quelques mois, donc on peut attendre, hein, on gère les affaires courantes.
Ah, vous avez raison.
On n'imagine pas tenir 3 ans dans une situation avec un gouvernement technique ou alors un gouvernement qui tombe tous les 15 jours comme au bon vieux temps de la 4e République. Donc il va falloir trouver une solution. Je pense que le plus digne pour M. Macron, après cette manœuvre complètement inconsidérée, ce serait celle que j'ai dite. Après, si vous me demandez la suite de l'histoire avec un grand H, je vous ai dit mon faible espoir qu'on revienne à des choses de meilleur sens, qu'on cesse de marcher sur la tête pour marcher enfin sur nos pieds comme la nature l'exige.
Éric Nolot, merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous publiez aux éditions Léo Cher, La République, c'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon. C'est remarquablement écrit. Les références littéraires et culturelles sont nombreuses et tout à fait pertinentes. Et j'en recommande chaudement la lecture à nos auditeurs.
Merci
à vous et merci à vos auditeurs. Oh,